bad. Oh, technical and like cut. This is talk.
They're
just the more.
Discovering the phone patch as they tech.
So prepared something for you guys. And here's our final word.
As soon as they stop singing.
Well, they stop singing right now.
Okay. You guys are on.
Hey, you're listening to CKUT in Montreal. This is the Homelessness Marathon. For the next hour, we're going to be talking about homelessness in Montreal with respect to food, going hungry in Canada. The question is, why are Canada's homeless going hungry? And what can we do to make sure that some good food gets out to the people who need it? For this hour, we're going to have with us Lise Bertrand.
From the Public Health Services.
From the Public Health Services, thanks a lot.
You're welcome.
And Sister Nicole from Akoi Bono. So, Lise, why don't you say hello and introduce yourself, and then we'll start up a conversation here.
Alors, bonsoir. Je suis Lise Bertrand de la Direction de santé publique de Montréal. Nous sommes une organisation de planification de la santé. Alors, on ne donne pas vraiment les services directs aux personnes, mais la Direction de santé publique au Québec est là d'abord pour regarder l'état de situation de la santé de la population. Qu'est-ce qui fait problème? Quels facteurs causent ces problèmes et essayer de planifier pour qu'on travaille sur les causes des problèmes. Alors, moi, personnellement, je suis responsable du secteur développement social ce qui veut dire que nous sommes beaucoup impliqués avec un ensemble d'autres organismes, comme la Ville de Montréal, par exemple, le Conseil régional de développement de l'île de Montréal. Et je suis également responsable du dossier qui s'appelle la sécurité alimentaire. Voulez-vous que j'aille là-dedans aussi? Non, on va attendre un peu.
Entendre un peu, oui. Et après ça, Sister Nicole, peut-être vous pouvez faire une petite introduction.
Merci, ça va mieux comme ça? Voilà. Alors, tout le monde connaît un peu, pour avoir entendu parler, de l'accueil Bonneau. Nous sommes un organisme qui offre des services de dépannage et aussi de suivi psychosocial à la population itinérante. Notre but est d'amener les gens à quitter la rue, quitter les refuges, se donner des meilleures conditions de vie, retrouver avant tout un chez-soi, un appartement et avoir ce qu'il faut pour survivre hors de la rue, quitter la rue. Alors, voici l'accueil pour nous. Nous avons 30 employés, 220 bénévoles et un ensemble de services pour aider les gens.
Merci.
Voilà.
Okay. Also, later on in the show, we're going to be having Matt Ferguson from the
Canadian Association of Food Banks in Toronto.
Oh, food bank, yes.
Yes.
Great, thanks. Oh, Matt, are you on the phone right now?
Yes, I am.
Oh, super. Okay. Well, look, now that we're doing in some introductions, why don't you tell us a little bit about the organization you represent and what you're doing there?
Sure. Thank you for having me. Well, my name is Matt Ferguson. I'm the Public Education and Research Coordinator for the Canadian Association of Food Banks.
Mm-hmm.
The Canadian Association of Food Banks is a national umbrella organization, and we represent voluntary food charities across Canada. We have nearly 250 members, and we comprise approximately 90% of the food charities in Canada. And of the two large projects that we coordinate, one is the National Food Sharing System. And that's a system that processes large donations of food received at one point in the country to other needy food banks in other locations of Canada.
Mm-hmm.
And last year we circulated 10 million pounds of donated food through Canada. And the other main project that we do is the Hunger Count, which is the only national research study of food bank use in Canada.
Okay. And maybe you could actually talk to us a little bit about what the study has identified as some of, you know, the more pressing problems facing homeless people in Canada.
Sorry, can you repeat that?
Sorry, maybe you could talk a little bit about what this study is, the last thing you mentioned, has identified as some of the more pressing problems facing homeless people in Canada.
Sure. Well, to talk about the Hunger Count study, in the Hunger Count 2003 was released on October 16th, which is internationally recognized as World Food Day. And it's been released since 1997 consecutively, was first done in 1989.
Mm-hmm.
And this year we found that there are 778,000 food bank users accessing food banks in the month of March. And the reason we use the month of March is because it's considered a very conservative month in the food bank industry, and we use it obviously to improve statistical credibility. And it's important to note, though, the degree of the conservatism with which the Hunger Count actually underestimates food bank use, because the National Population Health Survey actually estimates that only 1 in 5 food insecure Canadians rely on food banks. So last year's Hunger Count also reported that 306,000 children were using food banks, which comprises 40% of food bank users, which is one of our largest user groups.
Okay.
So, of course, the plight of children is something that we're always very concerned about.
Okay. Let's try to get some response on what you've just said. Liz, maybe do you want to... Do you want to help translate this for our French-speaking audience?
Yes, sure thing. Matt Ferguson nous parlait juste depuis 1997 et 1999. Il y avait le Hunger Count, c'est le compte de faim, qui était là pour aider pour les gens qui étaient en pauvreté. Il disait aussi des statistiques qu'il y a 1 sur 5 des personnes qui sont dépendantes, qui dépendent sur cette banque alimentaire, alors c'est important de l'avoir. Il parle aussi de beaucoup de facteurs qu'il y avait, c'est d'aider des services aussi que l'Association Banque alimentaire du Canada, que Matt Ferguson fait partie de à Toronto, pour aider ces gens-là et d'autres services aussi qui nous parlaient. Alors, c'est ça.
Okay.
Alors,
Madame Bertrand, votre avis de ça, c'est... Is there the same sort of program here in Montreal as Matt's describing?
Oui, il y a ce qu'on appelle en français les moissons. Ce sont les moissons qui sont dans diverses grandes villes et régions du Québec et qui sont des banques alimentaires et qui, eux aussi, de la même manière que ce que Matt Ferguson a décrit, procèdent à la distribution d'aliments qui sont recueillis. Mon avis sur les banques alimentaires ou parce que bien sûr que on est dans une si on recule au moment où les banques alimentaires ont été mises sur pied, vous savez, la première banque alimentaire s'est mise sur pied à Edmonton, hein? Et un des objectifs des banques alimentaires était beaucoup plus axé sur les surplus d'aliments qui étaient produits et on voulait éviter le gaspillage des aliments. Et avec la hausse de la pauvreté qui s'est produite au cours des années 90, les banques alimentaires ont dû répondre à ce moment-là à une demande incroyable. Et ouais. ça a été beaucoup à la hausse. Ce qui s'est produit avec la hausse de la pauvreté et bien sûr la hausse également des comptoirs de dépannage alimentaire, etc., c'est que c'est devenu comme, à un moment donné, un système de distribution alimentaire quasiment parallèle. Les moissons sont devenues extrêmement importantes dans la distribution d'aliments, mais c'était devenu aussi comme une réponse à la pauvreté. Et là, il fallait vraiment, à mon avis, qu'on essaie de voir à d'autres solutions. Hein? Ce n'est pas une solution. Le dépannage alimentaire est là pour répondre à des besoins d'urgence et elles sont, en principe, devraient répondre à ça, l'urgence. Mais là, on a été pris comme dans un engrenage et malheureusement, c'est devenu, à un moment donné, dans le milieu des années 90, la solution qu'on voyait poindre était beaucoup axée sur le dépannage alimentaire.
Non, c'est ça.
Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire en santé publique et avec d'autres partenaires, c'est de dire qu'il doit y avoir d'autres choses à faire que de répondre par le dépannage alimentaire et pour maintenir que le dépannage, les moissons, répondent aux besoins criants d'urgence. Alors, il y a eu comme un équilibre à établir à un moment donné.
C'est que le besoin de banque alimentaire ou de dépannage alimentaire montre aussi que les gens qui ont un peu de revenus, s'ils le mettent sur le logement, ils n'ont plus rien pour manger. Alors, la question de l'alimentation ou de la sécurité alimentaire est très liée aux besoins de logement. Dans les villes, quand on a peu de revenus, si on choisit, parce que c'est une question de choix, d'avoir un toit sur sa tête, bien, on aura de la difficulté à se nourrir. Donc, le dépannage alimentaire peut être une solution conduisant vers la stabilité résidentielle. Alors, il faut, je crois, marcher de pair. Le dépannage, d'accord, on voudrait bien en sortir. C'est une béquille qu'il faut pour être capable de se loger convenablement dans les grandes villes. The help of food bank is necessary to be able to have a decent housing because of the cost of the rent in these big cities. Mm-hmm. We need to go to the food banks to receive food because we have not enough money to survive.
Mm-hmm. One of the things we were hoping to talk about today is not just the accessibility to good food, which itself is a huge topic. There's a lot we could say about this, and hopefully we can even get back to this topic a bit later. One of the things was also the quality of the food, and, you know, what sort of food is out there. I mean, you know, if a homeless person was to be going into a shelter and receiving food, what kind of food would they be receiving on an average night? And, you know, how would it, in from a nutritional perspective, what kind of food would that be?
We have the responsibility to have good food. It's not just soup or bread. It's a complete meal. We try for our place. We give an average of 700 meals a day, and we try to have more than just something sweet or to have a real good meal, not with meat or cheese or eggs, to have something sufficient for your health. And vegetables, things like this. Sometimes the poor people cannot afford these expenses. Mm-hmm.
J'aimerais faire la différence jusqu'à un certain point. Moi, je suis convaincue que les soupes populaires et les organisations qui donnent des repas offrent des aliments de qualité nutritionnelle adéquate parce que les repas sont composés par ceux qui préparent les repas, ceux qui les offrent. Je fais une différence entre ça et les aliments qui sont recueillis dans des comptoirs de dépannage. On ne peut pas avoir dans un sac à provision tout ce qu'il faut pour s'alimenter au quotidien de façon nutritionnellement adéquate. Oui. On ne peut pas. Alors, c'est pour ça là, qu'on a ajustements à faire.
Ça manque quoi exactement?
Il faut un supplément, je pense, en éducation, en formation, pour être capable d'apprêter les aliments d'une façon nutritive. Puis ensuite, il y a des choses qu'on peut recevoir et qu'on ne sait pas comment utiliser. Alors, les cuisines collectives, il faut en même temps avoir des programmes pour aider les gens à mieux se nourrir et à savoir comment apprêter les choses.
Et là-dessus aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, à mon avis, là, le problème de la qualité de l'alimentation n'est pas exclusif aux pauvres. On a un gros problème avec l'alimentation dans la société en général. Et moi, je ne voudrais pas voir que les pauvres qu'on s'attarde comme à ghettoiser les pauvres, à les mettre dans un ghetto en disant qu'ils mangent mal. Ça, c'est, à mon avis, là, ça, c'est vraiment faire fausse route. Il y a un problème actuellement dans la société qui est beaucoup relié aux mets préparés commercialement, les mets tout faits. Mm-hmm. On a tellement plus de savoir-faire dans cette société-ci pour savoir exactement... Les jeunes femmes, qu'elles soient riches ou pauvres, ne savent plus préparer les aliments. Elles ne peuvent plus le transmettre à leurs enfants. Et là, on est devenu dans un... Alors, il faudrait absolument que, si on parle d'alimentation de qualité, autant pour les pauvres que pour les autres, il faut qu'on revienne à des aliments frais, des aliments de base. Et ce qui est beaucoup, beaucoup donné en ce moment, c'est des aliments tout préparés. Et les gens qui se présentent dans des comptoirs demandent ça parce qu'ils ne savent pas préparer. Et moi aussi, je suis en faveur de groupes d'achat collectifs, par exemple, ou des cuisines collectives. Malheureusement, il faudrait aussi qu'on sensibilise l'ensemble de la société à cette perte de savoir-faire. Il va falloir vraiment que tout le monde soit conscient de ça.
Yeah, this is a really important point. And just to remind people, if they're just tuning in, you're listening to CKUT. This is the Homelessness Marathon. And if you have any questions about anything you're hearing, here's the number. Please call in. It's 1-866-763-4136. Let me say that again. It's 1-866-763-4136. Lise, do you wanna recap that? We've got Matt on the line, and
for Matt Ferguson, who's on the line, and for any Anglophone listeners as well. Basically, what Madame Lise Bertrand and what Sister Nicole was talking about is basically about Moisson Montréal, the services that are offered there, and basically the It was initially for the response to poverty and to prevent any other waste that would occur from other food groups, food restaurants and services. And so basically that existed, but there became a huge demand for more of those services. And so with that came the services of which Madame Bertrand was talking about, which is the Magasin Partage, and which is out shared stores, and other collectives as well that can get a response to it. But it doesn't necessarily resolve the issue of poverty and of hunger. And so basically what it creates sometimes is a dependency on it, and that's what Madame Bertrand was basically advocating, is the fact that perhaps people are too dependent on those services, and what they need to be, which is what Sister Nicole was saying, is to get more educated about where they can get access, or perhaps how they can get themselves financially stable, perhaps as well, that can help out their situation. And we were also talking about the nutritional value of the food that is provided by her food shelter, which is very nutritious and is prepared with a lot of love and care, and is also very healthy for you, as well as Madame Martin was also talking about that. But they were also talking about the fact that there are some food banks or some people who donate food that is often chips or sweets and everything, and that's just not very healthy for people. And so basically, if that's a situation that's common in Toronto as well, perhaps Matt can talk about that a little bit, maybe add his insight into maybe what you think about those types of foods, if they're very common in those food banks, or if there's more of a certain type of restriction as to what type of food they accept and so forth. If Matt is still there.
Matt.
Yeah.
Hello.
Hello.
Hi. Nice to have you on board, Matt. We were just really wondering, from the perspective of someone who works at the Association of Canadian Food Banks.
I can't hear you.
Sorry about that. How about this? Is this better?
Yes.
Okay. I guess I'm asking. I guess we're all asking here is.
What type of quality of food do you offer or your services offer to the individuals of the impoverished communities you have in Toronto?
Sorry, I can't make you out.
Okay, I'm sorry.
I guess it's a bit windy here. We're talking about the quality of the food, and we're wondering, is this a nationwide problem, not just getting, you know, access to food in general, but, you know, trying to maintain some kind of standard of what counts as, you know, good food, so such that a cycle of dependency isn't perpetuated.
Are there certain restrictions, perhaps, that is put into the system, into what people can give for food, or is there anything? Are you still there, Matt? Hello, Matt. Well, I guess we'll have to go to him afterwards.
That's okay. But it is an extremely important issue, trying to make, you know, guarantee that not just that there's food out there for people to eat, but that, you know, it's going to be healthy food.
Maybe we can get that into the listener's mind as well, is that next time if they want to donate food, to maybe donate some healthy food rather
That's
than
right.
some junk,
you know,
food as well.
I think a lot of food banks on a yearly basis do send out calls for particular kinds of food. And, you know, it's important, I think, when people are trying to give food to sort of, you know, keep these things in mind. Like protein, for example, is a bit more difficult to come by than, say, chips.
And we have a call coming in from Harry, and he's 7 years old and grew up among homeless people and has a lot to say. So perhaps we shall go to him.
Hello, Harry. Welcome.
Is Harry on yet? He'll get there soon.
Fair enough.
But, so he seems to have an opinion about this. So
yeah, it'd be wonderful to hear from people who are actually going into the food banks, going into the shelters, and, you know, can talk to us about, you know, what they're eating and, you know, maybe the impact of just overall health on what it is when you're homeless. You know, all these issues interrelate. There's, you know, trying to get a good place to sleep so you're rested. There's trying to get a good place which is warm so your body's not always getting tired from staying outside. I mean, we've been outside for less than half an hour and, you know, already the cold's starting to settle in. And
on sera pas dit vite, alors.
Do you... It's it appears to me that you don't make any distinction between the food shelters and les comment on appelle les comptoirs de dépannage. Il y a une grosse différence dans la clientèle aussi, non?
Yeah. When the meals are prepared by people, it's easier to get something more healthy than if just you receive a bag of food at what we call the counters or the kind of store. Where that's why we need to have special programs to help people to prepare this food or to get together and to prepare food with help to be sure it's more healthy or a good balance in the meal.
Okay.
Mais j'avais envie d'aller vers un peu aussi vers la population pauvre. Il y a des travailleurs pauvres.
Oui.
Et je pense qu'il ne faut pas oublier toute cette catégorie de personnes qui sont, on pourrait dire, moyennement pauvres comme extrêmement pauvres et qui essaient de se débrouiller pour leur famille. Et nous, à Montréal, on a fait comme dans plusieurs grandes villes maintenant, beaucoup de villes américaines et canadiennes ont fait la même étude. On a regardé dans les quartiers de Montréal qu'est-ce qui caractérise l'approvisionnement alimentaire qui est accessible à la population. Hein? Et si vous allez dans des quartiers plus défavorisés, en tout cas, nous, à Montréal, là, j'ai toute une cartographie de chacun de nos secteurs, nos quartiers, et c'est très, très clair que dans les quartiers les plus défavorisés, ici, par exemple, dans le centre-sud, il y a une très forte dissémination de l'approvisionnement alimentaire. Dans les secteurs défavorisés, il y a toujours plus de dépanneurs que d'autres types de commerce d'alimentation. Ici, dans le centre-sud, vous descendez vers dans le quartier des Faubourgs. Le quartier chinois est très, très bien desservi en aliments pour la communauté chinoise. C'est merveilleux. Et vous allez vers l'est de centre-sud et il n'y a plus rien. Comprenez-vous? Et ça, il faut absolument... Et nous, à la Direction de santé publique, c'est un des programmes qu'on appuie beaucoup. C'est de faire en sorte que la communauté, c'est pas nous, évidemment, mais les organismes de la communauté travaillent ensemble pour améliorer l'approvisionnement alimentaire à bon coût. Et c'est comme ça aussi qu'on encourage beaucoup les jardins collectifs pour que l'été, les gens puissent avoir des endroits où produire, partager la culture alimentaire et faire quelque chose avec pour l'année. Et avoir les groupes d'achat collectifs où là, ils peuvent se partager les achats, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'on mette en place plusieurs types d'actions pour que l'ensemble de la population puisse se débrouiller et à bon coût et nutritivement adéquatement. Oui.
We need to have more initiative like a gardening or a group d'achat to be to help people to have a more healthy house way of eating.
Okay. I think we have Harry back on the line. Harry, why don't you join our conversation? Bienvenue. Harry.
We have to.
Hello, Harry. You're on the air.
Somewhere.
Harry, you're on the air. Please.
Maybe he's just preparing himself, perhaps.
Okay.
Maybe. Just so I could just summarize basically what Madame Bertrand said again. And maybe this would be very interesting if Matt Ferguson is still on the line. Matt, if you are listening, which I hope you are, so I'll just sum up. She was just talking about the neighborhoods that are existent in Montreal and basically how there is, it's very interesting how there's a total segregation sometimes when you walk into the neighborhoods and you could see that there's one section that has all these nice stores and then these grocery stores, and then you go into the poverty sections and there's a lot of other different types of stores, there's not enough of stores. And basically there's just this, there's always these kind of segregation lines, and we need to diminish those and we need to have more and equal access to the same type of stores and the same type of quality of food and quantity of food. And so maybe I was wondering, maybe perhaps if Matt would like to share the sections that exist in Toronto, the impoverished communities there, and how that compares with Montreal. Because she was talking about Chinatown as well.
Yeah.
And how also cultural ties with food also has a deep significance. There's a lot of those gardens.
Oh, that's an awesome
gardens
point.
That have that really join a lot of different cultural communities together.
Yeah.
And that's unique in Montreal. Perhaps it is also unique in Toronto. We don't know.
Yeah.
But we could find out.